Philippe Vandel est de retour avec sa série des Pourquoi pour répondre à toutes vos questions sur les Jeux Olympiques.
Il y en a tellement. Pourquoi un joueur de foot ne peut pas retirer son maillot pour célébrer un but? Pourquoi l'équitation est-elle la seule épreuve mixte des Jeux Olympiques? Et d'ailleurs, pourquoi certains sports sont-ils olympiques et pas d'autres? Des questions évidentes, mais des réponses étonnantes. Plongez avec moi dans l'univers fascinant des Jeux Olympiques et du sport.
Les Pourquoi des Jeux Olympiques, un livre surprenant de Philippe Vandel, aux éditions Kairo.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans KO, le podcast dédié à la culture sport de combat de l'équipe. Cette semaine, ce mois-ci, un podcast de gala, oui, puisque nous allons couvrir ni plus ni moins que le combat le plus important de l'histoire du MMA français. Francis Ngannou, Cyril Gane s'affrontent le 22 janvier prochain pour la ceinture heavyweight incontestée chez les lourds de l'organisation UFC Ultimate Fighting Championship. Et puis comme à chaque fois, la Dream Team est ici. Jérôme, The Masterclass Personified, Guillaume est là. Bonjour Jérôme.
Bonjour Guillaume, bonjour Sandro, bonjour Antoine, bonjour à toutes et à tous.
Et Alessandro, le Mexicain Pitsus, bonjour Sandro.
Salut à tous, salut Jérôme et Guillaume.
Merci quand même, et je suis Guillaume, honoré comme à chaque fois d'animer ce podcast. KO saison 3 épisode 12, c'est parti. Pour cause de coronavirus, nous sommes en distanciel et donc il pourrait y avoir quelques petits décalages au niveau du son puisque nous faisons avec les moyens du bord et donc là avec la formidable application que nous nommerons pas qui nous permet tout de même de vous livrer ce podcast. Sujet 1, messieurs. Francis Ngannou, le mal-aimé, oui, il a beau être sur une série de victoires par KO au plus tard, au deuxième round, on a l'impression que Francis Ngannou est le mal-aimé de l'UFC en conflit ouvert avec Dana White, le président de l'organisation. Sandro, que se passe-t-il avec Francis Ngannou, le champion de l'organisation depuis mars dernier, et une victoire par KO au deuxième round face à Stipe Miocic, pourtant considéré comme le plus grand poids lourd de tous les temps en MMA?
En fait, c'est quand tu me poses la question, j'ai presque envie d'imaginer une série et puis tu sais le petit générique au début précédemment dans Ngannou versus l'UFC parce que c'est un peu permanent en fait tout ce qui se passe entre Francis Ngannou et l'UFC depuis qu'il a remporté ce titre face à Stipe Miocic en mars dernier, c'est qu'en fait, Francis Ngannou et l'UFC ne s'entendent pas du tout, mais ça c'est pas nouveau non plus. On sait qu'il est en difficulté aussi avec Dana White depuis plusieurs années qu'il n'apprécie pas beaucoup. Donc, ce qui se passe, c'est qu'en fait, l'UFC lui a demandé assez rapidement de remettre son titre en jeu. Et Francis Ngannou n'était pas d'accord déjà pour remettre son titre en jeu parce que l'UFC voulait qu'il le remette en jeu dès l'été, c'est-à-dire en août probablement. C'est pour ça d'ailleurs qu'on a eu Cyril Gane contre Derrick Lewis pour le titre intérimaire. Et surtout, quand on parle de Francis Ngannou, on parle forcément aussi un petit peu d'argent parce que Francis Ngannou estime qu'il n'est pas bien payé à l'UFC, que pour un champion, il n'est pas traité comme tel. Et du coup, ça crée des tensions sur le salaire notamment. Et surtout, on a l'impression que pour faire ce combat, ça a été très compliqué. Et depuis l'annonce de ce combat, on entend beaucoup Francis Ngannou dire ce qu'il va faire après ce combat. C'est-à-dire qu'il aimerait bien faire de la boxe anglaise. On l'a vu se chauffer un petit peu avec Tyson Fury, qui lui a proposé de faire un combat de boxe avec des mitaines de MMA. Pas plus tard qu'aujourd'hui, il est annoncé à l'affiche du prochain Jackass. Je ne sais pas si vous avez vu ça. Donc Francis Ngannou, depuis ces derniers mois, on entend beaucoup son nom, mais pas forcément pour le combat face à Cyril Gane.
Jérôme, pourtant l'UFC a l'habitude d'avoir des divas ou des cas un petit peu compliqués. On pense notamment à John Jones. Mais là, on a l'impression que l'UFC ne sait tout simplement pas comment se positionner avec Francis Ngannou. Est-ce que toi, tu es d'accord avec ça?
Ouais, c'est compliqué. Je suis aussi, encore une fois, c'est le gimmick habituel, hein. Je suis encore d'accord avec Sandro. L'UFC a du mal, effectivement. Il y a vraiment beaucoup d'animosité entre Dana White et Francis Ngannou parce que pour son premier title shot, il avait demandé beaucoup, beaucoup d'argent. Il avait vraiment irrité Dana White. Depuis, Francis reste, lui, sur la même longueur d'onde. Il réclame effectivement beaucoup d'argent. Il estime qu'il est maltraité. L'UFC ne le fait pas combattre très, très souvent. Francis m'avait racontait qu'il s'en plaignait. Lui, il était prêt à combattre tous les 4 mois, au moins 2 fois par an. Là, on voit ces 3 derniers combats, c'est un combat par an. C'est très compliqué pour Francis. Il n'arrive pas à trouver vraiment le moyen d'échange régulier, apaisé avec Dana White. Et du coup, ouais, l'UFC ne sait pas trop comment le gérer. Alors, des divorces, on en a eu, effectivement. John Jones, Conor McGregor, mais c'est des mecs qui font beaucoup de pay-per-view. Et Francis, malheureusement pour lui, en fait un peu moins, parce que aussi qu'on ne voit pas assez souvent, et qu'effectivement, il est un peu décrédibilisé par l'UFC et Dana White, même si ça reste le champion poids lourd actuel, évident.
Donc, on a l'impression qu'il est engagé dans un bras de fer avec l'UFC, tout en rêvant de boxe anglaise, comme l'a dit Sandro. Sandro, est-ce que toi, tu penses que ça, ce rêve de boxe anglaise, de combat contre Tyson Fury, il a aussi parlé de Deontay Wilder, est-ce que c'est finalement une impasse pour Francis Ngannou? Parce qu'on a du mal à s'imaginer le voir dans un ring face au champion du monde Tyson Fury ou celui qu'il a été pendant 5 ans, WBC, Deontay Wilder.
Ouais, ça fait penser un peu à une impasse parce que je pense vraiment, bon, déjà, il faut rappeler que Francis Ngannou, il a 35 ans, donc il a encore quelques belles années devant lui, à mon avis, mais il n'est pas non plus de première jeunesse, il n'a pas moins de 30 ans, il a un certain background derrière lui. Et encore une fois, je suis désolé, mais c'est quand même l'un des points centrales quand on parle, le point central quand on parle de Francis Ngannou, c'est l'argent. Et à 35 ans, il le dit lui-même, il a envie de faire de l'argent. Et en boxe anglaise, on sait que voilà, on peut prendre un chèque assez faramineux très rapidement. Donc, je pense que c'est aussi pour ça qu'il a envie de se lancer en boxe anglaise. Après, le débat, il est aussi sur le fait que Francis Ngannou, même quand il était à l'UFC, dans une période un peu plus faste, on va dire, où il était mieux vu, il parlait déjà de boxe anglaise parce que c'est un peu un rêve qu'il a depuis qu'il est tout jeune de faire de la boxe anglaise. Donc c'est un sport qui réunit deux facteurs importants pour lui, c'est-à-dire que c'est une vraie passion pour lui, évidemment, la boxe anglaise, et c'est quelque chose qu'il a envie de faire, et ça pourrait lui rapporter gros. Parce que c'est un grand nom, parce qu'on le dit assez souvent, c'est probablement l'un des combattants dans l'histoire de l'UFC qui rivalise en termes de puissance avec les plus grands poids lourds actuels. Donc oui, c'est sûr qu'il est dans une impasse, parce qu'on ne l'a pas dit d'ailleurs, mais si jamais il perd ce combat, bah, officiellement, son contrat est terminé et il n'a plus de combat derrière. Donc je ne sais même pas ce que l'UFC va lui proposer si jamais il remporte son combat face à Cyril Gane.
Historien du sport, Jérôme, tu penses que l'UFC pourrait laisser partir Francis Ngannou, tout simplement? Parce qu'on se dit quand même, victoire ou défaite, ça paraîtrait improbable, et aussi ça pourrait peut-être changer le sport, même si une star de l'envergure de Francis venait à être agent libre.
Ouais, je sais pas, je pense pas. Juste pour rebondir sur ce qu'a dit Sandro, effectivement c'est un rêve de gosse pour Francis d'être boxeur, et comme il le dit souvent, c'est pas lui qui a choisi le MMA, c'est le MMA qu'il a choisi. D'ailleurs, Cyril dit la même chose. C'est assez troublant et intéressant de voir qu'ils disent la même chose. Effectivement, Francis, aujourd'hui, il est dans le money time. Il cherche avant tout la reconnaissance. Il cherche des gros chèques. Il a envie de se mettre à l'abri. Même si il a dit à plusieurs reprises qu'il voulait écrire l'histoire du MMA et être le plus grand poids lourd de l'UFC de tous les temps. Une impasse, je sais pas. Après, moi, j'ai parlé il y a quelques jours avec Francis qui doute de ses capacités en boxe anglaise pure. Effectivement, là encore, une fois, je rejoins Sandro. Je suis pas sûr qu'il ait les armes pour boxer avec des Wilder, des Fury, ou même un Joshua. Enfin, après, je pense que si Francis gagne ce combat face à Cyril Gane, l'UFC aura pas trop le choix de le re-signer. Ça serait quand même une première, je crois, historique. Un champion qui défend son titre face à un champion intérimaire qui est pas reconduit, ce serait quand même très très étrange. S'il perd, c'est un peu, la donne est un peu différente, mais en même temps, pour l'UFC, comment se priver d'un Francis Ngannou qui quand même fait le show, qui gagne ses combats au premier round, en 20 secondes, en une minute? Ça me paraît compliqué de le laisser filer. Moi, je pense que, en tout cas, si l'UFC veut pas le re-signer, ça serait une énorme erreur.
Ça serait une énorme erreur, je suis assez d'accord, mais en fait, tu l'as dit un petit peu plus tôt, Guillaume, le problème, en fait, ou Jérôme, je ne me souviens plus, mais en fait, le problème pour l'UFC, c'est que Francis Ngannou, bah, en fait, quand il y a un pay-per-view, quand il y a un UFC numéroté, bah, ce n'est pas forcément un combattant qui attire beaucoup de spectateurs. Et du coup, c'est pour ça aussi que je pense que l'UFC n'est pas disposé à accepter, on va dire, ses demandes d'émoluments assez importantes. C'est pour ça que je trouve que c'est En fait, c'est une mauvaise situation pour les deux parties. On a l'impression que ce qui arrangerait un peu l'UFC, c'est qu'ils perdent. Comme ça, ils lui diront bah, « si tu veux rester, tu restes, mais à nos conditions, à notre tarif. » S'il gagne, eh ben, ça va recréer de la pression parce qu'il va, il va forcément dire bah, « je suis le champion à contester, j'ai battu tout le monde, je veux ça, ça, ça et ça. » Et ça risque, on risque d'avoir un nouveau point de tension.
Justement, Sandro, est-ce que là, on est en train de voir que plus que jamais, il y a une opposition des personnalités et des styles, le gentil Cyril Gane, le méchant Francis Ngannou, la brute contre l'artiste, est-ce que pour toi, l'UFC a envie que Cyril gagne le 22 janvier prochain?
C'est compliqué, je pense en fait que l'UFC... Bah, en fait, très honnêtement, je sais pas. Je pense que ça serait pas un problème que Cyril, pour l'UFC, que Cyril soit champion, parce qu'il y a une belle histoire aussi à raconter. C'est un combattant qui est de plus en plus enthousiasmant, même de l'autre côté de l'Atlantique. Hein. Donc ça, c'est quand même un point important. Il est français, donc pour le MMA à l'international, c'est aussi plutôt un point positif pour l'UFC. Non, franchement, je pense que ce ne serait pas un problème que Cyril Gane gagne tout simplement le titre. Donc non, je ne pense pas que ce soit un problème.
Les perspectives seraient gigantesques de toute façon, peu importe le vainqueur, parce que c'est vrai qu'avec Cyril, il y aurait la route, l'autoroute vers un UFC Paris. Et puis, en cas de victoire de Francis, c'est vrai que le fameux UFC Africa, qu'Israël Adesanya, que Kamaru Usman et que Francis veulent voir, pourrait se matérialiser d'ici quelques années, peut-être.
Non, mais je pense que l'UFC a envie que Cyril gagne, pas facile à dire, parce qu'ils ont envie de débarquer en France avec un champion poids lourd français. Mais comme ils sont malins à l'UFC, effectivement, comme tu l'as dit, Guillaume, je pense que c'est bien aussi pour eux si Francis gagne aussi, parce qu'effectivement, ils pourront faire un UFC Africa qui serait une première également. Donc, difficile à dire, effectivement, si l'UFC a un préféré. Mais en tout cas, pour l'arrivée en France, effectivement, de l'UFC, qui gagne, s'impose, bah, c'est tout bon.
Et puis juste une dernière chose, messieurs, par rapport au style juste de Cyril Gane, qui avait été un peu critiqué, notamment par Dana White, notamment après les victoires face à Rosenstreich, qui avait dit « Ok, il est fort, mais c'est pas spectaculaire, c'est pas génial, c'est pas électrisant. » Bon. On a vu quand même que pour la ceinture intérimaire face à Derrick Lewis, on va dire qu'il a gagné un peu des galons en termes de spectacle. Et donc, du coup, ces critiques qui venaient surtout des États-Unis et surtout de Dana White se sont un petit peu atténuées. Donc, c'est aussi quelque chose qui est important, on va dire, avec l'UFC. C'est que voilà, il faut un champion clinquant qui soit beau à voir selon eux, selon leurs standards. Et ça, c'est aussi important de le signaler.
Entrons dans le vif du sujet, messieurs. Le choc Cyril Gane, Francis Ngannou, main event de l'UFC 270 à Anaheim en Californie. On s'attend véritablement à un choc entre peut-être sûrement les deux meilleurs poids lourds actuels. D'un côté Cyril Gane, invaincu en carrière, de l'autre la machine à KO Francis Ngannou. Jérôme, s'il te plaît, la masterclass pour nous présenter les forces en présence, parce que tout porte à croire qu'on aura une véritable opposition de style.
Effectivement, on va pas bouder son plaisir. Tu l'as dit très bien, Guillaume. C'est effectivement, je pense, le combat chez les poids lourds idéal qu'on attend. Effectivement, il n'y a pas photo, il n'y a pas débat. Miocic, aujourd'hui, à 40 ans, on oublie. Cormier a pris sa retraite. Jones, voilà, pareil, on attend toujours qu'il soit enfin apaisé avec Dana White et l'UFC, et il sera sans doute le prochain adversaire du vainqueur, et encore, c'est pas sûr. Mais oui, on attend un combat électrisant. D'après mes infos, aucun des deux n'a envie d'aller à la décision. Les deux veulent finir le combat avant la ligne. Je pense que le vrai enjeu, c'est les deux premiers rounds. Si Cyril Gane arrive à passer la tempête des deux premiers rounds face à Francis, là, ça va devenir vraiment très intéressant et je pense que Cyril aura toutes ses chances de s'imposer. Le vrai enjeu, il est là. Si Francis, à mon avis, arrive à passer sa droite, voire le point avant, parce que que ce soit la droite ou le point avant ou le point gauche, il peut très bien mettre KO, ça va être très compliqué. Je pense que ça va être un ouragan dans les deux premières rounds et ça va être une guerre incroyable, incroyable.
Sandro, est-ce que tu as quelque chose à ajouter? Là, je m'y vois déjà. Ça va être sur le papier. Ça peut être complètement dingue. On peut peut-être se poser la question. Oui, d'ailleurs, Sandro, je t'apostrophe là-dessus. Est-ce que Cyril a ce qu'il faut justement pour déjouer la machine à Ngannou? Parce que comme l'a dit Jérôme, deux rounds comme ça, ce n'est que 2 rounds, mais ça veut dire 10 minutes enfermées dans une cage avec ce que Cyril qualifie, en parlant de Francis, un animal qui met tout le monde KO.
Est-ce que Cyril a les armes pour battre Francis? Bien sûr que oui. Franchement, je pense que c'est aujourd'hui le poids lourd qui a le plus de chance d'embêter Francis par son style. Alors évidemment, Jérôme a déjà pas mal parlé dessus, parce que c'est un combattant extrêmement technique, on le sait, qui est dans le mouvement. C'est Francis Ngannou, Cyril Gane, c'est thèse, antithèse, c'est deux opposés. Ça n'a rien à voir entre les deux. Je suis évidemment absolument d'accord avec Jérôme. Les deux premiers rounds seront les deux rounds qui vont un peu décider, pas de l'issue du combat, mais du ton que de ce combat. Parce que évidemment, les deux premiers rounds, on sait que c'est les deux rounds où Francis Ngannou est surpuissant, où il a le plus de peps aussi. Et c'est là où il risque de lui faire très, très mal, évidemment. Donc, à ta question, est-ce que Cyril Gane a les armes pour embêter Francis Ngannou? Évidemment, avec du mouvement, ne jamais lui laisser le centre de l'octogone. Évidemment, ça c'est quelque chose, on n'en a pas encore parlé, mais c'est évidemment pour moi le point central, ne jamais laisser le centre de l'octogone à Francis Ngannou, parce que c'est comme ça qu'il pourra déclencher, on va dire, ses assauts, et on sait qu'un seul suffira. Donc voilà. Tant qu'il s'en tiendra, j'imagine, avec le plan qu'il va mettre en place avec Fernando Lopez, même si, pour moi, c'est toujours compliqué de faire un plan quand on est face à Francis Ngannou, parce que, mine de rien, alors c'est un peu un marronnier, mais on est obligé de le dire, je suis désolé, mais ça peut se terminer en 10 secondes aussi.
Après, très clairement, la puissance de feu, elle est du côté de Francis. Le fight IQ, c'est-à-dire le plan intellectuel de combat, l'intelligence de combat, le déplacement, est du côté de Cyril. Après, voilà, effectivement, il faut gérer l'ouragan qui va arriver. Et je pense que ça arrivera. Francis a aucun intérêt à essayer de faire durer le combat. Maintenant, si Cyril arrive à encaisser quelques coups et à tenir à distance grâce à son kick, son kickboxing et son expérience du Muay Thai, là, ça peut devenir super intéressant et on peut peut-être aller voir une soumission. Mais après, du côté de Francis aussi, j'ai bien aimé le côté. La brute versus l'artiste, mais c'est un peu plus compliqué que ça. C'est pas une brute épaisse, Francis. Il a des armes aussi en lutte, en soumission. Et en plus, il a tellement de puissance qu'avec un seul bras, il avait fait, je sais plus contre qui, mais avec un seul bras, il peut faire une clé de bras avec un seul bras, tellement il est puissant. Donc ça peut vraiment être super intéressant.
Alors, Jérôme, tu vas poursuivre sur ta lancée. Le mythe peut-être du Francis Ngannou patient qu'on avait vu contre Stipe Miocic lors du dernier combat, la dernière sortie de Francis Ngannou. Est-ce que ça existe vraiment ou c'est tout simplement la dernière fois qu'on a vu Francis, les gens ont découvert quelque chose qui était peut-être toujours là, mais c'est juste que pour battre Stipe Miocic, il fallait avoir cette approche-là. Et peut-être que là, on verra un Francis qui aura un petit peu plus envie, plus offensif dès le début, comme ce qu'il avait fait face à Jairzinho Rozenstruik et son KO en 20 secondes seulement.
Ouais, je pense que c'est exactement ça. C'est un demi-mythe, le nouveau Francis patient. Je crois pas trop, et en plus, je crois qu'il a aucun intérêt à être patient. Il a été patient une seule fois dans ses combats, c'était face à Derrick Lewis. On a vu le résultat, le pire combat du monde chez les poids lourds. Il a fait, c'est vrai, un peu d'effort face à Miocic. Et là, on s'est dit, on a peut-être un nouveau Francis. Mais je pense que Francis a tout à gagner à rester dans son style, en fait. C'est-à-dire à déclencher tout de suite et à mettre la pression sur l'adversaire, à déclencher une tempête, un ouragan, une tornade. C'est ça, Francis. En plus, tout le monde a son sale, lui. Et en plus, sur 5 rounds, face à Cyril, il n'a pas la caisse. Par rapport à lui, je veux dire. Il a la caisse, sans doute, pour le faire, mais pas par rapport à un combattant comme Cyril. Donc oui, moi, je pense que ça tient du mythe, le Francis patient. J'attends de voir, mais je pense qu'il n'a pas intérêt à faire durer le combat, et je pense que dans sa tête, et il a vu ça sans doute avec son coach, l'idée c'est de finaliser en 2 rounds.
Et moi, pour le coup, je suis désolé, mais je suis pas complètement d'accord avec ça, malheureusement. En fait, je trouve que justement, je pense qu'il devrait justement pas se jeter comme un taureau, comme il a fait par exemple face à Rozenstruik, on l'avait vu. Hein. Bon, Guillaume, tu l'as dit, il avait gagné en 20 secondes, mais c'était un petit peu du grand n'importe quoi. Il a gagné parce que forcément, avec une puissance de feu pareille, quand vous touchez votre adversaire, vous le couchez. Mais moi, je pense que face à un adversaire aussi technique que Cyril Gane, aussi intelligent comme tu l'as dit, Jérôme, et qui est capable de déclencher des contres Parce que, mine de rien, oui, Cyril Gane est technique, mais n'oublions pas qu'il est puissant aussi. Et moi, je pense qu'il peut aussi faire très mal avec ses kicks et avec ses points, évidemment. Je pense que ce ne serait pas une bonne idée de se jeter sur lui et de faire des grands moulinets en mode Francis Ngannou 2013. Voilà, ça a marché contre certains adversaires. Quand ce sont des adversaires beaucoup plus techniques, beaucoup plus robustes, beaucoup plus intelligents, je ne suis pas sûr que ce soit la meilleure tactique. Alors, je ne dis pas qu'il faut qu'il fasse le même style, qu'il adapte le même style que Cyril. Non, mais pour moi, il faut juste en fait qu'il déclenche ses assauts au bon moment, mais pas moi, je pense que faire la tornade, ça serait dangereux, parce que si jamais cette tornade est inefficace pendant deux rounds, eh ben, il est foutu pour les trois autres, parce qu'il n'aura absolument pas d'essence pour finir ce combat.
Je suis d'accord. Pour moi, le modèle de combat, c'est sa victoire face à Miocic. C'est au deuxième round, à la 52e seconde. Il a bien géré, mais ça reste quand même une tornade. Face à Rosenstruik, c'était n'importe quoi, ça durait 20 secondes. Face à Dos Santos, c'était 1 minute 11. Face à Ken Velasquez, c'était 26 secondes. Face à Curtis Blade, premier round, 45 secondes. Voilà. En fait, c'est sa force. Il ne peut pas nier sa force. Alors, très bien. Tu vois, même au deuxième round, face à Miocic, c'est 52 secondes après le début du deuxième. Francis doit faire parler sa puissance et son côté tornade. Face à un mec, effectivement, comme tu dis, face à Gann, mais je crois la patience de Francis, ça n'existe pas. Il n'est pas fait pour ça, en fait. Il n'est pas fait pour ça.
Je suis d'accord avec Jérôme, évidemment. Mais en fait, le seul truc, c'est que je suis évidemment qu'il doit lui mettre la pression, mais pas n'importe comment. C'est juste ça que je voulais dire. C'est qu'en fait, il doit juste être un peu moins foufou que précédemment. Mais en fait, pour moi, le mythe du Francis Ngannou patient, bah pour moi, en fait, il existe parce que ce qu'on a vu face à Miocic, c'est un nouveau Francis Ngannou lors du deuxième combat. Un Francis Ngannou qu'on n'avait encore jamais vu. Alors, ça n'a duré que un round plus 50 secondes dans le deuxième round, mais n'oublions pas que depuis 4 ans, Francis Ngannou a passé 6 minutes dans l'octogone. C'est pas beaucoup, évidemment. Mais moi, j'ai trouvé que ce qu'il avait montré face à Miocic, un petit peu de patience et un petit peu de jugeote aussi dans son fight IQ, bah moi, j'ai trouvé ça plutôt intéressant. Et je pense en fait que tout ce qu'on dit sur « Ah oui, mais face à tel adversaire, face à Derrick Lewis, face à Stipe Miocic, premier combat, pour moi, ça n'a pas vraiment de valeur parce que ce n'est plus le même Francis Ngannou. »
Est-ce que, Jérôme, tu souhaites ajouter quelque chose ?
Bah non. Non, 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 c'est parfait. Je suis... Je partage l'avis de Sandro et j'approuve ce message.
Jérôme approuve ce message, c'est formidable. On passe au point suivant et pas des moindres. C'est une question de coach d'entraîneur. Fernand Lopez, qui était head coach de Francis Ngannou de ses débuts en MMA jusqu'à, finalement, on va dire pleinement, jusqu'au premier title shot face à Stipe Miocic en 2018. Depuis, Francis est parti s'installer à Las Vegas. Il s'entraîne au Extreme Couture. Son head coach s'appelle Eric Nixik. De son côté, Cyril Gane a lui découvert le MMA par Fernand Lopez en 2018 et depuis s'entraîne pleinement au MMA Factory et à Fernand Lopez comme head coach. On a l'impression, Sandro, que Fernand est le véritable facteur X de ce combat puisqu'il connaît peut-être les deux combattants comme personne.
Évidemment, c'est quand même c'est une histoire dans l'histoire évidemment de ce combat. C'est que Fernand Lopez, au final, c'est quand même la personne qui connaît le mieux ces deux combattants, probablement. Il a lancé Francis Ngannou, il y a eu une très longue histoire entre eux. Il l'a fait démarrer, il l'a initié aussi au MMA. Il a fait évidemment toute la première partie de sa carrière à l'UFC avec Francis Ngannou. Bon, ça c'est pas très bien terminé. On l'a vu lors de l'UFC 268, ils se sont croisés dans les coursives. Hein. Francis Ngannou était venu en tant que spectateur. Cyril Gane était là pour soutenir Nassourdine Imanov, son partenaire d'entraînement. Francis Ngannou est passé devant eux, les a pas calculés, leur a pas dit bonjour. Ça a créé aussi, on va dire, un petit épisode de tension, même si c'est pas non plus quelque chose de fou. Mais c'est un coach, évidemment, qui le connaît très bien. Et forcément, il va se servir, on va dire, à la fois avec Cyril Gane des points forts d'Ngannou, les points forts qu'il connaît et les points faibles, pour, j'imagine, lui préparer un petit plan de combat aux petits oignons.
Ouais, alors c'est vraiment une très bonne question. Est-ce que Fernand Lopez est le facteur X ? Et sans trop dévoiler de choses, j'ai posé la question il y a trois jours à Fernand, justement. Évidemment, il n'a pas dit oui. Hein. Il ne va pas se jeter dans la gueule du loup comme ça. Mais c'est intéressant parce que pour Fernand, l'embrouille, l'embrouille à l'UFC de 68, imagine qu'il aurait fait la même chose. S'il avait été dans la même situation que Francis, il aurait fait pareil. Il ne serait pas venu saluer, il serait passé à côté. Et ce qu'il m'a dit, c'est que, en fait, oui, certes, il connaît très bien Francis. Je lui ai demandé si, grâce à lui, il pouvait rentrer dans la tête de Francis et aiguiller Cyril là-dessus. Il m'a dit, je vais essayer. Mais en fait, Francis me connaît aussi très, très bien. Donc, il sait ce que je vais demander à Cyril Gane. Et donc, ça va être très compliqué. Il a insisté sur le fait que Nick Sick est un très, très bon coach et que lui aussi, il étudie les combats de France, des combats de Cyril et qu'il va essayer de trouver une solution pour rentrer. Donc, facteur X, oui, sans doute. Malgré tout, parce que Fernand m'a dit il y aura forcément un peu d'émotion de part et d'autre, et peut-être que ça peut changer la donne. Après, ce sont deux professionnels, et même quatre professionnels si on parle des head coach. Et après, voilà, une fois que les deux sont dans la cage, c'est les deux mecs entre eux, c'est les deux combattants entre eux. Les coachs, ils sont à l'extérieur, ils ont une minute pour intervenir entre les rounds. Voilà, finalement, ça va peut-être pas se jouer à grand-chose. Alors, facteur X, moi, je dirais non.
C'est un non pour Jérôme. Messieurs, on va poursuivre avec Jérôme, tiens. Toi qui es l'historien de cette Dream Team, est-ce que pour toi, c'est le combat le plus important de l'histoire du MMA français ?
Évidemment. C'est juste énorme, en fait. C'est la catégorie reine de l'UFC, c'est les poids lourds. C'est du spectacle, c'est du show en général. Quand on est autour de la cage, pour ceux qui ont la chance d'avoir fait des UFC, on entend les frappes. Ça met des frissons à chaque coup. C'est juste incroyable. Et là, je pense qu'on a vraiment les deux meilleurs poids lourds actuels au monde, en MMA, mais peut-être même dans tous les sports de combat confondus. On attend Teddy Riner, peut-être, un jour, on verra. Mais oui, c'est extraordinaire, c'est extraordinaire. Francis a déclaré dans l'équipe, il y a quelques années, qu'il était un pur produit du MMA français. Cyril Gane est français, il a très peu de combats, il est déjà champion intérimaire des poids lourds. Ça représente énormément de choses, je pense, pour la reconnaissance de ce sport en France, où c'est le pays, le dernier au monde qui a reconnu, qui a légalisé ce sport. C'est juste, pour moi, je peux me tromper, mais c'est juste énorme, c'est une envergure incroyable pour ce sport, pour le développement des salles, des licenciés. Ouais, c'est juste génial, en fait, génial.
Et il n'y a toujours pas eu les conférences de presse, ni même le premier combat, donc rassurez-vous, tous les ingrédients sont là pour qu'il y ait une revanche explosive, peut-être en France, d'ici quelques mois. On va passer au pronostic. Et là, c'est Sandro qui va s'y coller parce que c'est lui le plus brave d'entre nous, pour le coup.
Bon courage.
Et c'est aussi lui le plus dul d'entre nous en pronostic aussi. Franchement, c'est très, très, très dur. C'est un peu se jeter dans le grand bain sans bouée, quoi. Franchement, je vais dire Francis Ngannou parce que franchement, je le vois. Alors, franchement, Cyril Gane a toutes les armes, et je le pense vraiment. C'est juste que j'ai un petit peu peur du one punch knockout de Francis Ngannou. Ça peut faire très mal. Mine de rien, on n'a pas vraiment de certitude sur la capacité à encaisser des coups surpuissants de Cyril Gane. Même si je pense que voilà, il a un bon menton, mais un bon menton, ça ne veut pas dire grand-chose face au boss final, comme l'appelle aussi Cyril Gane, quand on affronte Francis Ngannou. Donc moi, je vais dire victoire de Francis Ngannou dans les deux premiers rounds, voilà, par KO, avec une belle droite des Fanny. Voilà.
Jérôme.
Ouais, c'est compliqué. J'aime bien l'analyse de Sandro. On en a parlé en plus souvent entre nous depuis quelques jours. C'est compliqué. Effectivement, il y a une grosse hype en France là sur Cyril, comme s'il allait fracasser Francis. Ngannou, ça reste quand même du très très lourd. Il a le power punch ultime. C'est quand même la plus grosse frappe jamais enregistrée par un athlète au monde. Il faut quand même, le rappeler. Donc, s'il touche comme il faut à la tempe, au nez, au menton, tu dors très clairement. Maintenant, même si on m'a dit que Cyril était très sollicité par les médias, etc., parce que c'est vraiment la hype en ce moment dans plein de domaines, et qu'on me dit qu'il est un peu dispersé, je suis pas sûr. J'ai l'impression que Cyril, il est c'est une espèce d'iceberg un peu imperméable à toute la pression, un mec tellement smooth, tellement cool, qui peut tout gérer. J'ai vu des vidéos, et on les a tous vues parce que c'était diffusé, des sparring, des rares sparring, ils ont dû en faire 4 qui ont tourné sur les réseaux, où Cyril n'avait pas l'air d'être un manchot. Moi, j'ai envie de dire Cyril au troisième. Voilà. Soumission, plus que KO, mais en même temps, soumettre Francis, ça me paraît compliqué. Donc, KO pour Cyril au troisième.
Oh, wow. Eh bien, pour ma part, ce sera un KO, TKO plutôt, de Cyril Gane au quatrième round, parce que oui, Sandro, je partage complètement ton avis. Cyril ne peut pas encaisser une frappe à pleine puissance de Francis Ngannou. Aucun être humain sur Terre ne le peut. Sauf que Cyril, il a affronté et il a battu Jairzinho Rozenstruik et Derrick Lewis, qui sont, à mon sens, les deux plus grosses machines à KO dans la catégorie heavyweight, en dessous de Francis Ngannou. Et à chaque fois, lors de ces deux combats, il n'avait pas été touché. Donc, c'est des arguments qui, de mon côté, font plutôt pencher la balance en faveur de Cyril, même si je suis entièrement d'accord avec Jérôme. Les deux premiers rounds, je pense que personne ne va respirer. Est-ce qu'on avait un mot à ajouter ou bien nous sommes complets sur cette prévue ? Ah, Sandro.
Pour rebondir sur ce que tu as dit, évidemment, c'est très vrai sur Rozenstruik et Derrick Lewis. Évidemment que c'est des gros cogneurs et évidemment que Cyril les a maîtrisés, franchement, assez facilement, même plutôt facilement. Mais encore une fois, si Rozenstruik et Derrick Lewis, c'est le niveau 7, on va dire, de la puissance, Francis Ngannou, c'est niveau 20. Donc, c'est juste qu'en fait, oui, il a déjà affronté des combattants de ce calibre, on va dire, avec ce style, mais pas avec, pour moi, ce degré de difficulté. Voilà, c'est tout. Mais évidemment, je partage votre avis et ce serait énorme que Cyril Gane s'impose, peu importe, hein, s'impose par décision ou par TKO, soumission, comme vous l'avez dit. On a eu un peu tout dans les pronos, là, c'est plutôt sympa. Mais voilà, évidemment, ce serait absolument fabuleux et il a les armes pour contrecarrer la puissance d'Ngannou. Mais je pense qu'en 20 minutes, si ça va jusqu'à la décision, je pense qu'il ne pourra pas ne pas prendre un seul coup dur de la part d'Ngannou. Ça me paraît franchement impossible.
Et si je peux dire un dernier mot ?
Oui.
Je pense que ça va être juste incroyable. C'est un combat qu'on attend, qu'on a envie de voir. Ça va être une guerre, ça va être fabuleux. Que ça dure 10 secondes ou 25 minutes, on va se régaler.
Eh bien voilà, rendez-vous la semaine prochaine dans la nuit du 22 au 23 janvier. Ça s'annonce explosif. Francis Ngannou, Cyril Gane pour le titre poids lourd de l'UFC. Le podcast est malheureusement déjà terminé, messieurs.
Oh non !
Oh. Mais on se retrouvera très vite, on va se retrouver très vite pour débriefer de tout ça, bien évidemment. KO est disponible sur le site l'équipe.fr et sur toutes les plateformes de podcast habituelles. Merci à Antoine d'avoir réussi à mettre tout ça sur pied dans des conditions apocalyptiques dignes de ce qui va se passer à Anaheim, à l'UFC 270. À la prochaine.